VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 février 2016. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Niger, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats fantaisistes de la présidentielle. La société civile appelle à manifester.
Nous allons faire des mobilisations. On ne peut pas empêcher aux gens, s'ils pensent qu'ils doivent le faire, de manifester. C'est leur droit absolu.
En RDC, Human Rights Watch dénonce la répression des opposants politiques.
Au Tchad, une manifestation de l'opposition a été empêchée.
Tous les carrefours et ronds-points du quartier ont été occupés. Ils ont fait une démonstration de force qui prouve leur faiblesse.
Crise migratoire en Europe, la Belgique rétablit provisoirement ses contrôles à sa frontière avec la France.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Et maintenant, le journal.
Dans l'actualité africaine, au Niger, les résultats de la présidentielle tombent au compte-gouttes. L'opposition nigérienne a déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats qu'elle qualifie de fantaisistes. Notre envoyé spécial Nicolas Pinault est sur place.
Oui, c'est un processus lent et difficile. Un peu plus de 15% des résultats connus ce matin sur la présidentielle. 50 communes sur les 308 de cette élection présidentielle. Le taux de participation s'établit à 67,13%. Ce sont les chiffres provisoires de la Commission électorale nationale indépendante qui publie ces chiffres au compte-gouttes. Évidemment, cela alimente la suspicion. Ce matin, la tendance est la même. Le président sortant Mahamadou Issoufou est en tête avec 33,78% des suffrages. Deuxième, Ama Amadou, 26,38% des voix. Troisième position pour Seyni Oumarou, le président du MNSD. Nassara, la tendance est la même depuis 24 heures. Ce sont ces trois candidats qui arrivent sur le podium de cette élection. Mais évidemment, il reste encore beaucoup de résultats à parvenir. Espérons pour les Nigériens qui attendent évidemment la publication des résultats provisoires globaux que cette journée de mercredi sera la bonne. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Au Mali, au moins 10 personnes ont été tuées depuis une semaine près de Ménaka, dans le nord du pays, dans des violences entre Touareg. Le conflit a été déclenché par l'assassinat d'un vieux sage d'une tribu Touareg de la localité par d'autres Touareg. Depuis, les différentes tribus s'affrontent avec des représailles et des contre-représailles.
Au Sénégal, l'opposant et ex-ministre El Hadji Amadou Sall a été condamné mardi à une peine de 3 mois avec sursis pour atteinte à la sûreté de l'État. Lui était reproché des propos tenus le 15 mars 2015 au cours d'un rassemblement de partisans de Karim Ouad dans la banlieue de Dakar.
Retour sur le bombardement en 2004 du camp militaire français de Bouaké en Côte d'Ivoire. 3 anciens ministres français sont sur la sellette. La juge d'instruction Sabine Kéris, enquêtant sur le bombardement, a demandé qu'une haute cour se penche sur le rôle de Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier, soupçonnés d'entrave aux investigations.
En République démocratique du Congo, Human Rights Watch demande au gouvernement de mettre fin à la répression visant des opposants politiques présumés. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme dénonce, entre autres, les arrestations arbitraires de 9 jeunes en marge de la journée Ville morte organisée le 16 février par les opposants à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Des détails avec Eddie Isango.
Manifester pacifiquement n'est pas un crime et les autorités congolaises devraient immédiatement libérer toutes les personnes injustement arrêtées sous des accusations fallacieuses, indique Human Rights Watch dans un communiqué publié hier. L'Organisation de défense des droits de l'homme fustige l'arrestation à Goma et à Kinshasa des 8 jeunes membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, basé à Goma. Pour Human Rights Watch, les chefs d'accusation portés à l'encontre de ce jeune semble être politiquement motivé. L'ONG les qualifie de fabriqués de toutes pièces. Kinshasa accuse pour sa part l'ONG américaine d'immixtion dans un dossier judiciaire, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'AFP. L'appel lancé par des opposants pour une ville morte le 16 février avait été largement suivi à Kinshasa et partiellement dans d'autres provinces. L'opposition et les activistes mettent la pression sur le président Joseph Kabila afin qu'il respecte les délais constitutionnels en organisant les élections avant novembre sans s'y représenter pour un troisième mandat.
En Afrique du Sud, la chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi qui ressemble à un premier pas vers la réforme agraire pour redresser les disparités raciales dans l'appropriation des terres. Éric Maniarakissa.
La question de la terre reste sensible en Afrique du Sud, 22 ans après l'apartheid. La chambre basse du Parlement a adopté hier un projet de loi permettant au gouvernement d'acheter la terre en fixant son prix et au besoin en expropriant dans l'intérêt public. Pour devenir une loi, ce projet doit d'abord être approuvé par le Sénat, puis promulgué par le président Jacob Zuma. Il s'approche d'une réforme agraire, mais se différencie des expropriations forcées comme au Zimbabwe. Les partis d'opposition et les gros fermiers blancs l'ont dénoncé, mais pour l'ANC au pouvoir, c'est le moyen de rendre équitable l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Depuis 1994, près de 8 millions d'hectares ont été transférés à des fermiers noirs, ce qui représente à peine 8 à 10% des terres détenues par des blancs. La plupart des fermes subissent la pire des sécheresses jamais vécues depuis au moins un siècle.
Les forces relevant du gouvernement libyen reconnu ont repris mardi aux djihadistes leur principal bastion à Benghazi, alors que l'ONU se dit inquiète de la lenteur du processus politique après un report du vote du Parlement pour accorder sa confiance au gouvernement d'union.
La justice marocaine a décidé d'engager des poursuites contre un ex-détenu de Guantanamo pour atteinte à la sûreté de l'État. Younis Chekouri avait été rapatrié au Maroc mi-septembre après avoir été détenu plus de 13 ans dans la prison américaine et puis libéré par les États-Unis. À son arrivée au Maroc, il avait été immédiatement arrêté par les autorités pour son implication présumée dans des actes terroristes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, la Belgique a annoncé hier le rétablissement provisoire de contrôle à sa frontière avec la France pour faire face à un éventuel afflux de migrants quittant la jungle de Calais, vaste camp proche de l'entrée française du tunnel sous la Manche, ainsi qu'aux abords du grand port de Zeebrugge, d'où partent des ferries pour la Grande-Bretagne. Des détails avec Nanit Talani.
Le ministre belge de l'Intérieur, Jean Jambon, a expliqué cette mesure par le démantèlement annoncé de la jungle de Calais au nord de la France, que les migrants ont été sommés de quitter mardi soir par les autorités françaises. Cependant, le juge ne donnera sa décision qu'entre mercredi et jeudi. Dès lundi soir, les contrôles ont commencé à la frontière belge. Chaque jour, quelques 250 à 290 policiers sont déployés à cet effet. Hier, 32 personnes ont été arrêtées dans une localité située du côté belge de la frontière avec la France. Les migrants qui arriveraient de Calais et qui souhaiteraient déposer une demande d'asile en Belgique seraient dirigés vers des centres de l'Office des étrangers à Bruxelles. Ceux qui parviendraient à passer à travers les mailles du filet ou qui ne voudraient pas demander l'asile en Belgique se verraient quant à eux notifiés un ordre immédiat de quitter le territoire et serait raccompagné à la frontière française par la police belge. Sept pays membres de l'espace Schengen, dont l'Allemagne, le Danemark et la France, ont temporairement dérogé aux règles de libre circulation en rétablissant des contrôles provisoires à leurs frontières, comme ils y sont autorisés dans des situations exceptionnelles.
Le régime de Damas a donné hier son accord au projet américano-russe de cessez-le-feu en Syrie, une initiative acceptée par l'opposition, mais sous condition. L'entrée en vigueur de la trêve, prévue pour vendredi à 22h temps universel, pourrait cependant être entravée car elle n'implique pas d'influents groupes djihadistes comme le groupe État islamique et le front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda qui contrôle de larges pans du territoire syrien.
Course à l'investiture pour la présidentielle aux États-Unis, le milliardaire américain Donald Trump a remporté le caucus républicain du Nevada avec une large avance sur ses rivaux Marco Rubio et Ted Cruz, annonçaient les télévisions américaines à la clôture du scrutin. Fox News, CNN et MSNBC donnaient Donald Trump à 42% des votes des sympathisants républicains, soit sa troisième victoire de suite après la Caroline du Sud et le New Hampshire.
USA toujours, Barack Obama a dévoilé mardi son plan pour fermer la prison de Guantanamo avec l'espoir de tenir enfin cette promesse de sa campagne de 2008 et ce juste avant son départ de la Maison Blanche. Mais l'obstacle du Congrès devrait être difficile à franchir.
Au Brésil, un total de 583 nourrissons ont été diagnostiqués depuis octobre 2015 de microcéphalie, une malformation congénitale qui pourrait être liée au virus Zika, cette maladie transmise par un moustique. Le ministère de la Santé a précisé que 120 bébés étaient décédés suite à ces malformations. Le Brésil, pays le plus touché par l'épidémie de Zika, enquête sur 4107 autres cas suspects de microcéphalie.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Nathalie Barge.
Les exportations de cacao au Cameroun ont connu une baisse perceptible ces derniers temps, passant de quelque 38 700 tonnes en décembre à 21 600 tonnes en janvier, selon l'Office national du cacao et du café. C'est la première fois que la courbe des exportations mensuelles descend sous la barre des 30 000 tonnes. Selon les opérateurs, cette baisse s'explique par le fait que les producteurs constituent des stocks, en attendant que les prix sur le marché repartent à la hausse, rapporte l'APA. Ouverture ce mardi du Forum africain de la finance islamique à Casablanca, rappelle Financial Afrique. La rencontre est considérée comme le rendez-vous francophone de la finance islamique par excellence. Cet événement d'envergure internationale a su fédérer les dirigeants de la finance islamique depuis ses 5 précédentes éditions organisées en Tunisie et au Maroc. L'Angola ne fait plus partie des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Le groupe d'action financière a annoncé le retrait du pays de sa liste noire. Selon la Banque centrale angolaise, la décision du GAFI est due à des réformes mises en place par le gouvernement, comme la création d'une cellule de renseignement surveillant les opérations financières suspectes. L'Angola quitte ainsi cette liste avec 2 autres pays. L'Algérie, l'Angola et le Panama ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leur méthode de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique le GAFI.
Merci Nathalie. Et maintenant, place à notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
8e de finale aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, hier soir, avec un doublé de Lionel Messi en 2e période, le Barça a eu raison des Gunners d'Arsenal, battus 2-0. Autant dire que les Catalans sont presque sur un boulevard pour se qualifier pour les quarts de finale. Quant à la Juve, elle a été tenue en échec à domicile par les Bavarois du Bayern Munich, 2-2. Il faut dire que le Bayern va préparer le match retour à domicile avec un léger avantage.
Ce soir, suite et fin de ces 8e de finale aller de Ligue des Champions.
Oui, l'Atlético Madrid est en déplacement à Eindhoven aux Pays-Bas chez le PSV et Manchester City se rend sur le terrain du Dynamo Kiev en Ukraine.
Élection à la FIFA, l'un des 5 candidats demande le report du vote.
Il s'agit du prince Ali qui estime que le vote n'est pas transparent à ses yeux. Il a saisi le TAS, le tribunal administratif du sport, qui se prononcera au plus tard jeudi matin.
Athlétisme, on connaît les chefs de file de la sélection kényane.
Oui, Caleb Mwangangi, champion du monde en salle du 3000 mètres il y a 2 ans, et Augustine Choguet, médaille d'argent en 2012, conduiront la sélection kényane au championnat du monde en salle d'athlétisme du 17 au 20 mars prochain à Portland, ici aux États-Unis. Cette sélection a été annoncée mardi alors que l'athlétisme kényan est dans la tourmente à 6 mois des Jeux olympiques de Rio du 5 au 21 août. Le directeur général de la fédération kényane, Isaac Mwangi, a été suspendu 6 mois par la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme lundi, soupçonné de corruption dans la gestion des cas de dopage. La suspension de Mwangi a fait suite à celle des 3 plus hauts responsables de l'athlétisme kényan depuis le 30 novembre dernier. Et pour terminer, Claire, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Tout à fait, Bagassi. 5 matchs se sont disputés sur les parquets américains hier soir. Les Wizards de Washington ont battu les Pelicans de New Orleans 109 à 89. Les Nuggets de Denver se sont inclinés face aux Kings de Sacramento 110 à 114. Orlando Magic l'emporte face à Philadelphie 124 à 115. Les Jazz de l'Utah sont venus à bout des Rockets de Houston 117 à 114. Enfin, victoire des Trail Blazers de Portland face aux Nets de Brooklyn 112 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Au Niger, 3 jours après le scrutin présidentiel, toujours pas de résultats provisoires globaux. La CENI dévoile au compte-gouttes les résultats, une lenteur critiquée et des premiers résultats déjà rejetés par l'opposition. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinon.
À peine 10% des résultats de la présidentielle ont été dévoilés jusqu'à mardi soir. Un processus anormalement long qui alimente la suspicion grandissante dans la capitale Niamey. Sans attendre le dépouillement final, l'opposition regroupée au sein de la coalition pour l'alternance a déjà fait savoir qu'elle rejetait ses résultats. On écoute Amadou Boubacar Cissé, candidat à la présidentielle.
Il est évident que tel que ça a été proclamé jusqu'à maintenant, on ne peut pas les reconnaître. Mais on demande aux militants de résister, de ne pas accepter ce qui se passe, parce que c'est totalement contraire à ce qui a été exprimé par les urnes. Et la stratégie d'endormir les militants et d'endormir les partis politiques en donnant des résultats au compte-gouttes, nous l'avons très bien compris.
La COPA 2016 dénonce des bureaux fictifs et des résultats qui ne correspondraient pas avec la réalité du vote de dimanche. La CENI a déjà répondu que les 2600 bureaux fictifs de la région de Zinder n'existaient pas. L'opposition nigérienne appelle ses militants à résister sans dire comment. La société civile est plus directe. Résistance citoyenne appelle à manifester s'il le faut. Moussa Tchangari.
Nous allons faire des mobilisations, même si, là encore, on a pris des mesures pour annoncer que toute manifestation demeure interdite, par exemple en ce qui concerne la capitale. Ce qui déjà est suspect et pour une durée indéterminée. On ne peut pas empêcher aux gens, s'ils pensent qu'ils doivent le faire, de manifester, c'est leur droit absolu.
Le régime Issoufou reste confiant de sa victoire et dénonce les manœuvres de l'opposition. Quant aux différentes missions d'observation, elles se sont limitées à constater le caractère paisible de ces élections malgré des problèmes d'organisation. Écoutons Jean Eyegendong qui dirige la mission d'observation de l'Union africaine.
Cette élection a permis au peuple nigérien de choisir son président de la République et ses députés librement et dans la transparence. La mission exhorte les partis politiques, les candidats et leurs supporters à respecter la volonté du peuple telle qu'exprimée à travers les résultats officiels et à recourir, le cas échéant, uniquement à la voie légale pour toute contestation éventuelle.
Cette journée de mercredi s'annonce donc décisive pour la suite du processus politique au Niger. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Washington Forum cette semaine, retour sur les élections générales au Niger. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils devaient voter entre 15 candidats pour présider le pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais les résultats seront-ils acceptés par tous? Après 4 coups d'État dans son histoire et la menace de Boko Haram, de quoi sera fait l'avenir du Niger? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Tchad, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé hier dans la capitale pour empêcher une marche pacifique de l'opposition contre le régime d'Idriss Déby. Celle-ci a été annulée de fait vu que son parcours était complètement quadrillé, a déclaré à VOA Afrique Saleh Kebzabo, chef de l'opposition et candidat à la présidentielle du 10 avril prochain. Nathalie Barge l'adjoint à Djamena.
Toute manifestation de ce genre, quand il s'agit d'une marche, elle part toujours d'un endroit précis pour prendre fin à un endroit précis. Et là, en l'occurrence, les deux lieux étaient massivement occupés par des centaines d'agents de sécurité. Nous n'avions donc pas accès à notre lieu de départ. Et tous les axes y menant aussi étaient massivement occupés. Tous les carrefours et ronds-points du quartier ont été occupés. Ils ont fait une démonstration de force qui prouve leur faiblesse, qui prouve bien que le régime a peur de tout ce qu'on peut faire. Et je crois qu'on n'avait même pas besoin d'annuler. La manifestation s'est annulée d'elle-même. Aussi, je voudrais dire que je me réjouis de ce que nous avons ainsi préservé le sang des Tchadiens. Parce que les forces qui étaient prépositionnées, la gendarmerie et la police, étaient visibles. Mais elles n'étaient pas les vraies forces de répression. Les vraies forces de répression étaient derrière, c'est la garde nomade, qui attendait donc des instructions pour enclencher le mouvement de répression sauvage et barbare. Ça prouve que l'opposition a fait preuve d'intelligence et de responsabilité. Parce que dans le deuxième volet des conséquences, quand il y avait, c'est qu'ils voulaient nous les faire amputer éventuellement. Ils voulaient nous faire amputer la responsabilité des manifestations et des dégâts qui auraient eu lieu. Et donc, vous comprenez ce que cela veut dire, surtout pour tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Et là aussi, nous avons su déjouer ce piège.
Cependant, la plupart des leaders de l'opposition vous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre décision d'annuler cette manifestation.
La petite personne de Kebzabo n'est pas assez grande pour imposer une décision tout seul. Nous nous sommes réunis chez moi depuis 6 heures du matin. On était plus de 30 chefs de parti. Nous avons passé toute la situation en revue. Que dans une situation comme celle-là, qui est déjà plus prompt à aller dans une direction que dans une autre, qui est pas une entente totale, est tout à fait normal. C'est inscrit dans l'ordre des choses. Il y a un jeune chef de parti, par exemple, qui m'a dit à la fin, bon, écoutez-moi, je vous comprends, mais mon parti organisera une marche. Je lui ai dit bien, je vous soutiendrai.
Que pensez-vous du fait que les autorités aient interdit justement cette manifestation pacifique que vous avez le droit, hein, selon votre constitution, d'organiser?
Regardez l'intitulé même de l'arrêté, pour faire rire un peu les gens. Arrêté portant interdiction d'une marche pacifique. Ça en soi déjà, c'est assez amusant. Mais on est dans un domaine où il ne faut pas en rire. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que ce régime est à bout de souffle. Nous allons à des élections, mais on va à des élections dont on sait ici qu'on a vu tous les trucs qu'ils sont en train de faire. Et nous, nous sommes déterminés. Nous avons été jusqu'à les tourner en dérision en disant que même sans carte électorale, on ira aux élections.
Saleh Kebzabo, chef de l'opposition et candidat à la présidentielle du 10 avril. Pour écouter l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
L'opposition burundaise en exil a dénoncé mardi une fausse ouverture après l'annonce par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite à Bujumbura, que le président Pierre Nkurunziza s'était engagé à ouvrir un dialogue inclusif avec les opposants. Monsieur Ban, venu au Burundi pour tenter de trouver une issue à la grave crise politique qui frappe ce pays depuis près de 10 mois, avait fait cette annonce après un entretien avec le président burundais. Pour une réaction, Timothée Donangmai, adjoint à Dar es Salaam en Tanzanie, Hussein Rajabou, leader d'une faction du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
Cette suggestion de Ban Ki-moon n'est pas la première. C'est une suggestion qui succède aux autres provenant de l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres coins du monde. Donc pour nous, c'est une très bonne suggestion. Et malheureusement, c'est lui qui devrait faire un bon geste pour que cette suggestion puisse apporter des fruits. C'est dès le directeur de Nkurunziza. Et malheureusement pour lui, chaque fois, tantôt il accepte, tantôt il renie à ce qu'il avait déjà accepté. Donc ce n'est pas pour la première fois. Seulement, cette fois-ci, il y a une très grande intensité de pression. Et nous pensons que Nkurunziza va se courber devant cette suggestion et surtout devant d'autres pressions qui vont suivre.
Le président Nkurunziza, aux dernières nouvelles, a accordé une grâce présidentielle à un certain nombre de détenus. Avant cela, il avait fait lever le mandat d'arrêt contre certains exilés burundais. Est-ce que ce ne sont pas là des gestes de bonne volonté?
Écoutez, j'ai un décret devant moi. Ce n'est pas un geste de bonne volonté, mais c'est surtout un geste de pouvoir manipuler la communauté internationale. Dans ce décret, il montre que ceux accusés d'atteinte à la sécurité de l'État ne sont pas inclus parmi ceux qui devront être graciés. Alors ceux-là, ce sont des politiciens.
Quelle est la situation aujourd'hui au sein de l'opposition? On a l'impression qu'elle aussi est divisée en différents groupes.
Normalement, l'opposition, on peut dire qu'il y a des ambitions qui suivent cette ligne directrice de pouvoir arrêter la violence dans le pays. Et ces ambitions-là, ce sont des ambitions de positionnement, mais l'opposition est en train de se concerter. Et d'ailleurs, pour le moment, ils se rassemblent pour pouvoir faire des réunions de 2 ou 3 jours. Par là, je parle du Sénat. On sent très bien que ces différents vont être mis à l'écart.
Et sinon, pour toutes les positions, maintenant on pense comment arrêter la violence, comment mettre à terme ces violences qui font endeuiller les Burundais et comment pouvoir participer au dialogue inclusif.
Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, joint à Dar es Salaam en Tanzanie. À Lomé, les responsables des établissements hôteliers et des restaurants ont été alertés sur les mesures sécuritaires dans un contexte de prévention des attaques terroristes. La rencontre a permis aux hôteliers de faire part de leurs préoccupations au ministre en charge de la sécurité. Reportage à Lomé de notre correspondante Kaïl Osson.
Face à la menace terroriste dans la sous-région ouest-africaine, le Togo veut sécuriser les points qui font souvent l'objet d'attentats. Ce mardi 23 février, le ministre de la Sécurité et sa collègue du Tourisme ont échangé avec les responsables des hôtels et restaurants. Colonel Yak Damhan, ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile.
Aujourd'hui, la sécurité est devenue la denrée primordiale dans toute entreprise. Et on ne peut pas aussi se développer sans sécurité. Donc nous nous sommes retrouvés pour échanger. Il n'y a pas de menace en tant que telle, mais nous devons rester vigilants. Il y a des précautions élémentaires qu'il ne faut jamais négliger. Par exemple, un client qui arrive dans un hôtel doit être enregistré. Et s'il a un bagage, il faut regarder dedans. Équiper les établissements hôteliers, restaurants, les appareils de surveillance, des extincteurs pour mieux sécuriser nos établissements hôteliers.
Réceptifs au message, les responsables des établissements hôteliers et restaurants promettent y mettre des leurs pour épargner le Togo des attaques terroristes.
Le problème du djihadisme devient carrément inquiétant. Cette réunion a été vraiment importante pour nous et nous devrons alors au retour prendre toutes nos dispositions pour pouvoir contrôler nos clients.
Le ministre de la Sécurité a essayé de nous donner quelques approches pour pouvoir détecter les cas suspects dans les hôtels. Et surtout, il a insisté sur les caméras dans les hôtels pour qu'on puisse surveiller les clients. On a essayé de demander au ministre s'il peut avoir des subventions sur l'achat des caméras. Mais nous-mêmes, on doit faire l'effort aussi. Maintenant, les caméras ne coûtent pas assez cher. Donc, on va essayer de se procurer de ces caméras moins chères pour essayer de faire le travail. Il a mis l'accent sur la fouille des clients à leur entrée dans les hôtels.
La ministre du Tourisme a souligné que cette séance d'échange est la première phase d'une série d'actions et que le gouvernement ne tolérerait aucune négligence dans le respect des directives. Bernadette Legezim Balouki.
Je voulais insister sur les fiches de police dans les hôtels. On s'est rendu compte que il y a des négligences, des hôtels qui n'enregistrent pas et tout. On va prendre des dispositions pour faire des tours dans les hôtels, nous assurer qu'on respecte cette réglementation. Et je suis désolée, si on met la main sur un hôtel qui ne respecte pas, il y aura des sanctions. Je disais même au ministre de la Sécurité, on va vérifier, voir si la sanction n'est pas très corsée, qu'on puisse la corser, parce que la sécurité n'a pas de prix.
Au-delà des dispositions indispensables à prendre dans les hôtels et restaurants, des projets sécuritaires sont pilotés dans le pays, rassure le ministre de la Sécurité, Yark Damhan.
Il y a un projet, on va très bientôt essayer de mettre les caméras dans les grands carrefours de la ville. Il y a la plage, c'est pas tout le monde qui est catholique, il y a des voyous qui passent leur temps à agresser les gens. Mais on va voir comment renforcer avec nos éléments pour rassurer. On verra dans quelle mesure, avec les sociétés de gardiennage, nous leur avons dit, non seulement pour les enquêtes de moralité, même s'ils ont besoin de la formation, on est en train d'étudier, avoir un centre par lequel tous ces agents vont passer. Il faudrait à un moment donné qu'on parle le même langage. Si vous avez un agent, il voit le policier, qu'il puisse échanger avec le policier.
Le Togo ne prend pas à la légère la menace terroriste. Le jeudi 18 février dernier, un exercice militaire s'est déroulé au quartier administratif à Lomé. Le centre des opérations était un grand hôtel de la capitale togolaise. Le scénario tournait autour d'une attaque terroriste avec prise d'otages. Un exercice d'aguerrissement avec l'unité spéciale de la gendarmerie et les autres unités des forces armées togolaises. Kaïl Osson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Albertson était à la réalisation. John Ellison était à la console. présentation, Anne Alberson et Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.